la grande quantité de café, même prise avant 14 heures. Parce que si on prend d'énormes quantités de café avant 14 heures, le café n'est pas éliminé lorsque la nuit arrive. Ceci étant, on n'interdit absolument pas le café. Hein. Mais je pense qu'il faut avoir des règles. Et si vous voulez, ces règles sont essentiellement valables pour les insomniaques. Les gens qui dorment bien, bon ben, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, en espérant que, en prenant du café un petit peu à n'importe quel moment de la journée, il n'y ait pas des problèmes de sommeil qui apparaissent. Mais c'est surtout pour les gens qui ne dorment pas, il faut prendre en considération ces règles.
Dormez-vous bien, à point fermé, comme un bébé, ou au contraire, vous êtes victime d'insomnie? En janvier dernier, l'hôpital de Douai avait organisé une réunion d'information publique sur le sommeil. Celle-ci était animée par le docteur Dominique Graverolle, somnologue-neurologue de l'unité du sommeil du centre hospitalier de Douai. Il nous explique d'où vient cette initiative de réunion autour du sommeil.
C'est-à-dire que une série de praticiens de la ville m'avaient invité à répondre à des questions sur le sommeil. Et puis, en parlant, je leur avais dit, vous savez, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez initier vos patients au mécanisme du sommeil, ce en quoi ils m'ont dit, nous, on n'a vraiment pas le temps. Alors j'ai dit, écoutez, moi, je vous le propose. Alors, ils ont dit, oui, d'accord. Et c'est à partir de là que j'ai créé cette information qui existe depuis 3 ans, information que j'ai voulu tout public.
Justement, ça intéresse pas mal de gens, ceux qui sont aussi victimes d'insomnie. Et le but aussi, c'est de donner des astuces pour mieux dormir?
Ah non, le but, c'est de donner la compréhension des mécanismes du sommeil qui ont bien été mis en évidence sur le plan scientifique depuis 1960 et surtout depuis la fin des années 80 et le début des années 2000. Ce que j'essaye de faire, c'est de donner un mode d'emploi aux personnes qui soient capables de gérer leur comportement veille-sommeil. Parce que chacun a son profil génétique du sommeil, c'est-à-dire on a les couches tôt, ni du matin ni du soir, les couches tard, et on a les courts et moyens et longs dormeurs. Et quelquefois, le profil génétique du sommeil n'est pas toujours compatible avec les horaires d'éveil pour aller travailler. Ce soir, je vais montrer comment on peut essayer de ramener, puisque les profils correspondent à l'horaire de sécrétion de mélatonine, on peut essayer de ramener l'horaire de sécrétion de mélatonine compatible avec l'horaire de sommeil qui exige les horaires de travail.
Comment est-ce qu'on peut être sûr de si on est du matin, du soir, ni l'un ni l'autre, si on a besoin de 6 heures, de 10 heures?
La question est excellente.
Je pense que c'est un plaqué du...
Il y a des tests. Des tests, c'est vrai, parce que si vous voulez, ce qui serait bien, c'est que si on pouvait avoir dans un carnet de santé où on pourrait marquer le type génétique du sommeil, ce serait très très bien. Hein. Mais c'est excessivement difficile à faire. Alors actuellement, il y a des tests qui permettent de déterminer si on est du matin et du soir, qui permettent de donner une idée si on est du matin et du soir.
Justement, d'après les études, nous dormons moins qu'à une époque. Aujourd'hui, les gens dorment moins.
Ah oui, oui, certainement. C'est justement parce que actuellement, on a tendance à négliger le sommeil, alors qu'autrefois, la nature faisait qu'ils dormaient naturellement, tandis que maintenant, avec toutes les contraintes, que ce soit professionnelles, que ce soit sur le plan des loisirs, même quelquefois familial, le sommeil passe en second plan, c'est-à-dire on se dit toujours, oh ben, je peux manger ma nuit, j'aurai toujours suffisamment pour dormir, et bien entendu c'est comme ça qu'on dérègle le sommeil.
On arrive toujours à trouver les raisons, les causes d'un dérèglement justement de troubles du sommeil.
Généralement on peut arriver à le faire, c'est le but d'ailleurs des consultations, pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi le patient a ses troubles du sommeil. Ce qu'on essaie de faire d'abord, c'est un agenda de sommeil pour essayer de voir comment il s'organise sur 15 jours au niveau du sommeil et de la veille. Et à partir de là, on essaie de voir ce qui ne va pas. Puis on fixe des objectifs. Et tous les objectifs, il faut les faire très lentement, un par un. Ils sont revus à chaque consultation pour voir s'ils sont suivis ou pas suivis. Essentiellement un travail de prise en charge à la carte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter les siestes intempestives, c'est-à-dire des siestes de plus de 20 minutes, et que ces siestes se terminent avant 15 heures. Pourquoi ? Parce que les siestes consomment l'adénosine. Ceci étant, il faut quand même voir les choses pas aussi dogmatiques que ça, parce qu'il y a des gens qui ont un sommeil biphasique, c'est-à-dire qui ne dorment pas énormément la nuit, comme le font les gens du midi qui se lèvent très tôt, et qui font leur deuxième partie de sommeil en sieste. Et alors là, la sieste, elle peut durer une heure. Mais il faut qu'il y ait une dette de sommeil dans le sommeil de nuit. Et il faut surtout avoir une activité physique minimum, c'est-à-dire que quelqu'un qui restera à longueur de journée dans le divan en regardant la télévision n'aura pas fabriqué suffisamment d'adénosine pour avoir un sommeil récupérateur, et même insomnie.
Y a-t-il des choses à ne pas faire, à éviter pour mieux dormir ? Le docteur Dominique Graverolle répond à ces questions. Il est somnologue-neurologue de l'unité du sommeil du centre hospitalier de Douai.
Oui, il y a des choses qu'il faut éviter, notamment ne pas trop prendre de caféine au niveau du café, au niveau du Coca-Cola, au niveau du thé. On recommande de ne pas prendre de café après 14 heures. Mais cette recommandation, c'est surtout pour les insomniaques. Les autres personnes, dans la mesure où elles dorment encore, elles peuvent toujours continuer à prendre du café en espérant que ça ne va pas déstabiliser le sommeil à longue échéance. Et puis aussi, il y a le fait que, dans la mesure où le sommeil est soutenu par la sécrétion de mélatonine la nuit, les écrans LED diffusent une longueur d'onde de lumière qui peut bloquer la mélatonine. Et c'est le gros problème des jeunes, c'est qu'ils consultent sans arrêt leur petit écran avant de s'endormir, et à ce moment-là, ils bloquent leur sécrétion de mélatonine.
Et j'allais justement vous poser la question de la place du numérique maintenant dans nos vies. Justement, ça influe donc beaucoup. On parle du téléphone portable, ou même si on reste devant l'ordinateur assez longtemps avant de dormir, donc ça influence vraiment sur le sommeil.
Oui, oui, essentiellement, d'abord parce que normalement, après le repas, au moment où on s'endort, c'est-à-dire 2 heures normalement entre le moment où on a mangé et le temps d'endormissement, il faut se détendre. Avec l'ordinateur, il y a des risques que ça entretienne la tension qu'on a vécue dans la journée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les ordinateurs actuels diffusent cette fameuse lumière qui bloque la sécrétion de mélatonine. Il est vrai qu'arrivent sur le marché des lunettes qui vont permettre de ne plus avoir cette longueur d'onde néfaste.
Pour que le sommeil soit toxique sur l'organisme, hein, toxique c'est relatif, hein, il faut un raccourcissement chronique du sommeil pour qu'on puisse avoir des effets cardiovasculaires, hein, ou des effets métaboliques, hein, ou le diabète, ou même des effets sur le cancer.
Alors vous dites justement qu'il faut se détendre avant de dormir. On voit aujourd'hui beaucoup de salles de sport qui sont ouvertes jusque très tard le soir, voire dans la nuit. C'est pas forcément bon de faire du sport comme ça dans des salles avant de dormir.
Alors sur le plan pratique, le sommeil, le sport en soi, c'est excellent parce que ça fabrique notre somnifère naturel. Mais le problème, c'est que quand on fait du sport, on augmente sa température corporelle. Et c'est le fait d'avoir une température corporelle élevée qui nous empêche de nous endormir quand on revient d'une salle de sport dans l'heure qui précède. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de prendre une douche très tiède pour se refroidir. Mais il est évident que le sport, c'est très faste. Ça permet d'avoir un sommeil beaucoup plus profond et un maintien du sommeil plus important.
Alors quand quelqu'un vient vous voir, un patient, une patiente, il y a des analyses qui sont faites, justement, comment ça se passe pour déterminer aussi quelques troubles ?
Alors d'un point de vue pratique, moi on le voit d'abord en consultation, et à partir de la consultation, et même presque souvent, on fait un examen polysomnographique, c'est-à-dire qu'on enregistre l'électroencéphalogramme, les paramètres visuels, les paramètres du menton et les paramètres respiratoires pour faire le point sur son sommeil, parce que on veut éliminer tout ce qui peut être une pathologie du sommeil, en particulier le syndrome d'apnée du sommeil, parce qu'un syndrome d'apnée du sommeil peut même assez souvent se manifester par une insomnie. 40% des syndromes d'apnée du sommeil se manifestent par des insomnies. Donc malheureusement, on est obligé de passer par la case polysomnographie, ce qui restreint par rapport à la demande.
Par rapport à ce que vous dites, justement, est-ce qu'il peut y avoir le conjoint, la conjointe qui alerte à ce moment-là par rapport à des apnées ou des ronflements? Il peut y avoir aussi que ce soit le conjoint qui alerte et qui veut venir vous voir en couple, du coup, pour des troubles.
Oui, c'est préférable lors de la première consultation, il y ait le couple, parce que c'est vrai que qu'il y ait quelqu'un qui ait assisté à un arrêt respiratoire la nuit, c'est déterminant. C'est peut-être pas forcé, mais à partir du moment où on a ce signe, il y a une forte probabilité qu'il y ait un syndrome d'apnée du sommeil.
Le week-end, ou quand on est en vacances, on a tendance à faire la grasse matinée. J'avais entendu dire que c'est pas forcément bon de changer son rythme. Comment ça se passe justement par rapport au rythme du sommeil au quotidien ?
Alors, pour les gens qui n'ont pas de troubles du sommeil, ils peuvent très bien faire une petite grasse matinée le matin et le week-end, mais pas plus de 2 heures. Parce que s'ils font plus de 2 heures, c'est comme s'ils faisaient un jet lag. C'est-à-dire, c'est comme s'ils changeaient de méridien.
On met une personne dans une grotte, absolument sans repère temporel, il y a la persistance de son alternance veille-sommeil qui se déroule à peu près sur 24 heures. Tout ça parce qu'il y a une horloge biologique qui engendre le sommeil régulièrement toutes les 24 heures.
C'était le docteur Dominique Graverolle, somnologue neurologue de l'unité du sommeil du centre hospitalier de Douai, qui avait donné en janvier dernier une réunion d'information publique sur le sommeil.
Un reportage de Jérôme Bailly de Radio Scarp Sensé.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.